Amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver. Quel bonheur de vivre ces temps ici à Medjugorje au cours de ces 40 ans où la Vierge Marie, depuis le début, nous instruit, nous forme, nous transforme, nous parle pour que nous nous convertissions. C'est la dernière apparition mariale, elle l'a dit. Après Medjugorje, je n'apparaîtrai plus sur terre. Et donc, elle vient accomplir ce qu'elle a commencé à Fatima. Et depuis 40 ans, elle vient former son peuple. Elle vient rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, comme Jésus l'a fait par la croix, par sa croix, par sa résurrection. Et c'est vraiment cette mère éducatrice, et on sent ici, bien sûr, l'urgence des temps que nous vivons, de ce kairos, de cette période si particulière que nous traversons dans nos pays respectifs, sur la planète, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité. C'est une période très particulière au cours de laquelle la Vierge Marie nous prend la main. Elle nous dit, ceci est un temps de grâce et je viens vous préparer au temps nouveau. Je viens vous préparer au temps nouveau. Est-ce que c'est une source de grande espérance pour nous? Cette espérance chrétienne qui ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur et lorsque nous nous laissons toucher par la Vierge Marie, par ses paroles, par sa présence, par son sourire, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'être inquiet. Elle est là. Elle est la nouvelle arche d'alliance. Elle est ce refuge très sûr que Dieu nous donne pour traverser tout ce que nous avons à traverser, et notamment nos épreuves. Avec elle, la reine de la paix et de la réconciliation, nous pouvons traverser la mer de Tibériade en pleine tempête. Car comme Jésus dormait sur le coussin à la poupe du bateau, qui commençait à s'enfoncer parce que les vagues étaient fortes et que les flots, l'eau commençait à remplir la barque, Jésus dormait sur le coussin. Marie est ce coussin qui nous est donné pour que nous puissions traverser toute chose, le cœur en repos, le cœur en paix. Frères et sœurs, je ne sais pas si on réalise à quel point la Vierge Marie est un cadeau inestimable que le Seigneur Jésus nous donne à la croix. Voici ta mère. Voici ta mère. Alors vraiment, je lance un appel solennel, tous ceux et celles qui n'ont pas encore pris Marie chez lui, chez soi, faites-le. Faites-le. Jésus nous donne sa mère. Comme notre mère. Et encore une fois, elle est cet havre de paix. Elle est ce port. Elle est cette attache. Elle est cette ancre qui nous garde de toute dérive, aussi bien doctrinale que vitale. Elle nous garde sur le chemin de la sainteté. Elle nous garde sur le chemin de la vie véritablement chrétienne. En recevant Marie chez soi, en nous, nous recevons un immense cadeau qui va comme nous aider concrètement à vivre la splendeur, la profondeur, la largeur de la vie chrétienne, comme le ciel veut qu'on vive la vie chrétienne. Non pas avec des grandes idées, avec des grandes idéologies, des grandes théories, pour réformer l'Église ou que sais-je, non. La sainteté. Si nous voulons que l'Église change, comme répondait Mère Teresa à un journaliste qui lui posait la question, Mère, selon vous, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'Église? Et Mère Teresa de répondre, il y a deux choses qu'il doit absolument changer. Vous et moi. La véritable réforme de l'Église, c'est notre chemin de conversion, c'est notre conversion quotidienne. Et c'est pourquoi Marie nous est donnée. Pour que la vie divine s'enracine en nous, s'empare de nous, ou advienne en nous si nous vivons comme des païens. Il est temps de changer de vie. Il est temps de changer de chemin si nous sommes sur un chemin de ténèbres. C'est le moment. C'est le moment favorable. Les temps sont urgents. Et Marie nous est donnée. Ce qui est donné ici à Medjugorje n'est pas que pour Medjugorje, évidemment. C'est pour le monde. Bien sûr, Dieu veut que tout homme connaisse la vérité et parvienne au salut, comme nous dit saint Paul, comme nous dit plutôt le Seigneur lui-même à travers saint Paul, à Timothée. Et combien plus que Marie a ce désir, cette soif, que chacun, chaque être humain ici-bas, connaisse, dans le sens biblique du terme, connaisse l'amour de Dieu pour lui. Connaisse, c'est-à-dire fasse l'expérience intime et personnelle, profonde. Je suis aimé. Je suis aimé. Je suis aimé personnellement, d'une manière unique, d'une manière si unique et si profonde par le Seigneur trois fois saint, par le Père, par le Fils, par l'Esprit Saint. Si Marie nous est donnée, c'est pour que Dieu s'empare de nous. En recevant Marie en nous, nous ne faisons pas d'ombrage à Dieu, au contraire. C'est le propre de la médiation. La médiation pour Dieu, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une douane, ce n'est pas un intermédiaire qui fait perdre du temps. La médiation pour Dieu, quand Dieu institue une médiation, c'est pour faire gagner du temps. C'est pour nous faire accéder plus vite, plus haut, plus profondément à ce que Dieu lui-même veut nous donner. Refuser la médiation de Marie, c'est comme refuser la médiation de Jésus. Ah, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Pourquoi on accueillerait Jésus et non pas les autres médiations que Jésus nous donne? Alors on dirait au Père, « Ok, je reçois ton médiateur, unique médiateur entre Dieu et les hommes, ton Fils. » Mais quand ce même Fils nous donne Marie, ce même Fils nous donne les sacrements, on dit non, non, moi j'ai besoin que du Fils, ça me suffit. Mais c'est le Fils lui-même qui nous donne sa mère, médiatrice de toute grâce. C'est le Fils lui-même qui nous donne les sacrements comme moyen d'accéder à la vie divine. Les sacrements, au loin de nous éloigner de Dieu, nous font plonger en Dieu, nous donnent Dieu. Alors oui, moi, je peux vivre avec Dieu tout seul, directement. J'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin de sacrement, j'ai pas besoin de Marie. Ah bon? Ah bon? Pourtant, selon Dieu, tu en as besoin. Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué les sacrements. C'est Dieu lui-même qui a fondé l'église. C'est Dieu lui-même qui te donne sa mère. Et s'il te donne toutes ces choses, toutes ces personnes, tous ces instruments, toutes ces médiations, ce n'est pas pour installer des douanes. C'est pour te faire accéder à la vie divine d'une manière plus directe. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Mais ce même Jésus dira, ceux et celles qui vous accueilleront, c'est moi. C'est moi qu'ils accueilleront. Et en m'accueillant, ils accueilleront le Père. Il faut bien comprendre la médiation, car lorsque nous parlons de la Vierge Marie, des saints, de l'Église, ces réalités humaines, voulues par Dieu, instituées par Dieu. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est au contraire. C'est pour nous donner accès à nous, êtres humains de nature sensible. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas que une réalité spirituelle comme les anges. Nous sommes des réalités spirituallo-psychosomatiques, avec une sensibilité, des passions, un corps, des sens, une telle variété, une telle diversité chez les êtres humains, c'est assez impressionnant. Chaque être humain est unique, est autre par rapport à son frère. C'est grandiose. Alors, dans cette série de catéchèses sur l'Église, il faut bien comprendre que d'où vient l'Église ? Nous allons parler aujourd'hui de l'origine de l'Église. D'où ça vient ? C'est une des questions de l'intelligence que l'intelligence humaine se pose devant toute réalité. L'origine. Devant ce que tu entends, Nicodème, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, le vent, mais tu entends sa voix. Devant des choses toutes simples de la vie, tu te dis, mais d'où ça vient? Devant toi-même, d'où viens-tu? Quelle est ton origine? Ah, moi, mon origine, ben, c'est telle région, tel pays. Oui, d'accord. Telle histoire, tel arbre généalogique. Oui, mais encore. Mais encore. Alors, on peut voir l'origine selon le sens historique. Ça a commencé à tel moment, on va le voir un petit peu. L'Église. Dans son histoire, dans son historicité, avant qu'elle soit l'Église de mon Fils, comme dit la Gospa ici. L'Église de mon Fils. Elle le dit avec tellement d'émerveillement, tellement d'amour, tellement de douleur aussi, sûrement. Mais c'est l'amour qui fait souffrir. Si on n'aime pas l'Église, si on s'en fiche de l'Église, on ne souffre pas des péchés des membres de l'Église. C'est parce qu'on aime l'Église qu'on souffre des péchés des membres de l'Église. Et combien plus, qui plus que Marie peut souffrir des péchés des membres de l'Église? Qui plus que Jésus, et notamment à Gethsémani, c'est ce qu'il dit à beaucoup de mystiques, a souffert des péchés des membres de son Église, en particulier de ses consacrés, censés être ses amis, ses meilleurs amis, ses plus proches, ses fils de prédilection, ses fils et filles bien-aimés, ses épouses. Alors Jésus et Marie savent, souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment. Alors, d'où vient l'Église? Eh bien, figurez-vous qu'avant de voir son historicité, avant la période de Jésus, d'un point de vue historique, il y a 2000 ans, il nous faut d'emblée situer l'Église dans son origine éternelle. C'est la volonté de la Sainte Trinité qu'il y ait l'Église. Je vous avais cité cette phrase des pères de l'Église, que les pères de l'Église disaient souvent, c'est extraordinaire. « Le monde fut créé en vue de l'Église », disaient les chrétiens des premiers temps. Hermas. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, et cette convocation, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose, la finalité de toute chose. C'est-à-dire que l'Église existe pour que nous puissions déjà vivre de la vie de la Sainte Trinité, cette vie de la Sainte Trinité que nous vivrons toujours, là-haut. Et alors, ici-bas, tout nous est donné par l'Église pour que nous vivions dans l'Église cette vie de la Sainte Trinité. Il y a donc une volonté éternelle de Dieu, le Père. Le Père veut l'Église, a voulu. Le Fils a voulu, oh, bien sûr, on va le voir, il est le fondateur. Et il l'a fondée dans son amour douloureux, crucifié et glorifié. L'Esprit Saint, bien sûr, a voulu l'Église. Il est l'hôte, il est l'âme de l'Église, l'Esprit Saint. Il nous faut donc considérer le mystère de l'Église comme étant la volonté, ce que Dieu veut. Dieu veut l'Église. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Très bien. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ rédempteur, qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute création. Alors, pour arriver à l'Église de Jésus, vous comprenez que il aura fallu des étapes dans l'histoire. Cette communauté. Le catéchisme de l'Église catholique, dans plusieurs paragraphes, et notamment celui du 759, reprenant le passage que je vous ai cité tout à l'heure, Dieu a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils, tous ceux qui croient au Christ. Le Père a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine. Selon les dispositions du Père, en effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde. On va voir un petit peu les préfigurations, c'est-à-dire ce qui a déjà été déposé dans l'Ancien Testament. Elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance. Elle a été instituée, enfin, en ces temps qui sont les derniers. Elle est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et, au terme des siècles, elle sera consommée dans la gloire. Alors, les mots sont très importants. Préfigurée, merveilleusement préparée, instituée, manifestée et consommée dans la gloire. Elle sera consommée. Voilà le parcours de l'Église. Le Fils, le fondement de la communauté voulue par Dieu, dans son dessein éternel. Bien sûr, il faut que le Fils rédempte l'homme, il faut qu'il sauve l'homme. C'est dans le mystère du Christ et de la rédemption que se trouve la conception de l'Église. Jésus va fonder l'Église dans son sang, dans son sacrifice. Pas d'Église sans Jésus. Lorsque nous parlons d'Église, nous ne parlons que de l'Église de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Cette Église de Jésus-Christ, qui est celle du Père, bien sûr, il faut la Pentecôte, car la Pentecôte sera le moment où la promesse du Père va s'accomplir comme fruit de la rédemption accomplie par Jésus. Et donc, comme dira les Actes des Apôtres, Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins, et maintenant exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Ça, c'est la naissance de l'Église à la Pentecôte. Il faut qu'elle soit d'abord conçue avant de naître. Alors, l'Église de Jésus, si c'est l'Église de Jésus, il faut qu'elle naisse, qu'elle soit conçue en Jésus et qu'elle naisse à la Pentecôte. L'Église vient donc de la Sainte Trinité, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Et il nous est bon de nous rappeler cela. Parce que sinon, encore une fois, si nous retombons dans les regards trop humains, si on reste au niveau des choses à faire, vous voyez, à changer, si on reste au niveau des agendas, des plannings et de la répartition des tâches, bon, il faut rester au niveau du regard de foi sur l'Église. Regard de foi nous fait accéder au mystère de l'Église, c'est-à-dire comme une révélation de la présence de Dieu, de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Lumen Gentium numéro 4 nous rappelle que l'Église universelle apparaît donc comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Rien que ça. En effet, l'Église est le fruit de l'amour divin qui unit le Père et le Fils au sein de la Trinité. Et c'est en vertu de cet amour que le Père a voulu réunir les hommes dans son Fils. Le mystère de l'Église est donc enraciné en Dieu Trinité. Et c'est pourquoi la dimension trinitaire est absolument première. On ne peut pas parler d'Église en ne parlant pas d'abord de la Sainte Trinité. C'est notre spécificité à nous chrétiens. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes baptisés, nous sommes plongés, immergés dans la vie de Dieu. Qui est Dieu ? Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Ça fait combien de dieux, les enfants ? Ça fait un Dieu, trois personnes. Et ça vit, ça bouge, c'est le Père aime le Fils se laisse engendrer par le Père, il se donne tout entier au Père, et voilà que le Père et le Fils spirent l'Esprit Saint. C'est un bouillonnement d'amour et de lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière. Et voilà que cette vie divine dans la Sainte Trinité, trois personnes vivantes, le Père est vivant, le Fils est bel et bien vivant, l'Esprit Saint est à fond vivant. « Je suis la vie, dit Jésus, le vivant, dit l'Apocalypse. » Et voilà que ce qui se passe en Dieu nous est donné pour que nous vivions ici-bas, dans l'Église, à travers l'Église, par l'Église, la vie de la Sainte Trinité, réunie, connectée à la source des trois personnes divines. Baptiser, c'est ce que Jésus dit. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jean ne suffit pas. On devient chrétien, donc membre de l'Église, de Jésus, en étant immergé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en étant immergé dans la Sainte Trinité. Normalement, la Sainte Trinité devrait être tout pour nous, au point de départ. Nos compagnons de route, de la journée, et notre fin, notre finalité. Chaque homme est dans l'Église, par le baptême, la demeure de la Sainte Trinité. Et toute l'Église composée de personnes habitées par la Trinité est dans son ensemble la demeure, le temple de la Trinité. Quel mystère. Merci Seigneur pour l'origine de ton Église, qu'est toi-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun avec, j'allais dire, des rôles appropriés, comme on dit en théologie, des appropriations. Alors bien sûr, le Père, par exemple, est créateur, le Fils est créateur, l'Esprit Saint est créateur, mais on va approprier le mystère de la création au Père. Ce n'est pas que le Fils n'est pas créateur ou l'Esprit Saint n'est pas créateur, les trois sont créants. Mais il y a un seul Dieu créateur, oui. Alors bien sûr, chacun, le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils, et l'Esprit Saint n'est ni le Fils ni le Père. Et pourtant, Dieu œuvre toujours ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il y a les différents âges que nous allons parcourir, je vous le répète, c'est dans Lumen Gentium 2, très beau. L'Église annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, elle s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint. Et au terme des siècles, elle se consommera dans la gloire. Alors, on peut le dire comme dans les saints pères, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste, jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. Adam et Ève sont nos premiers parents, mais ils sont nos frères et sœurs. En Jésus, Adam est mon frère. Ève est ma sœur, en Jésus. Je terminerai, avant qu'on poursuive dans les prochaines catéchèses, je terminerai cette catéchèse sur les origines de l'Église, sur quelque chose qui me paraît important parce que cela touche notre vie personnelle aussi. La question de l'origine, on peut rester au niveau historique, ou bien on peut se dire en vérité que mon origine, notre origine, chacun en particulier, elle est actuelle. Si je vous pose la question, d'où viens-tu? Premier réflexe, eh bien, vous allez me donner un lieu géographique. D'où viens-tu? D'où vient ta famille? Bon, un deuxième lieu géographique, vous allez remonter un peu dans le temps. Mais si je vous pose la question de l'origine, d'un point de vue actuel, actuellement, d'où viens-tu? Alors, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, vous allez me dire, actuellement, mon origine, c'est Dieu. C'est la Sainte Trinité. C'est merveilleux et c'est merveilleusement vrai. est profondément libérateur, parce que si par exemple nous avons une histoire un peu compliquée, personnelle, une histoire de famille compliquée, avec un arbre généalogique compliqué, où il s'est passé peut-être pas forcément des belles choses, des choses faciles. Retenons qu'avec un regard de foi, donc certain, et qui rejoint la réalité la plus profonde sur notre origine, d'où viens-tu actuellement? Si nous venons de la Sainte Trinité maintenant, alors nous pouvons dire, eh bien, quelle que soit mon historicité, quel que soit mon arbre de généalogie, quel que soit mon milieu familial, mon milieu social, quelle que soit mon histoire, mon origine, je peux la rejoindre maintenant. Je ne suis pas obligé de remonter le temps. Je peux maintenant et actuellement rejoindre mon origine. C'est comme le mystère de la création. Lorsque je vous dis souvent que le mystère de la création est actuel, c'est-à-dire que actuellement Dieu me crée. Je peux donc rejoindre mon Créateur maintenant. Vous imaginez s'il fallait rejoindre notre Créateur en remontant jusqu'à Adam et Ève? Ça fait loin. Certains pensent que avant Adam et Ève, il y avait des guenons et des singes. Non, c'est. Je pense que ça ne tient pas la route, bon, d'un point de vue métaphysique. Bref, fermons la parenthèse. Nous ne descendons pas du singe. Nous venons du Père. Nous venons du Fils. Nous venons du Saint-Esprit. D'où viens-tu? Hein, je viens de mon père alcoolique, et je viens de mon grand-père raciste, et je viens de mon arrière-grand-père, machin, 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 machin. D'où viens-tu? Ah, je viens de mon père du ciel, qui me crée avec amour, qui me bénit. Je viens de Jésus, mon rédempteur. Je viens de la croix du Christ. Je suis un fruit de la croix de Jésus. C'est ça mon origine de racheter. De sauver. Ah, je viens du Saint-Esprit, parce que si j'ai pas le Saint-Esprit, je suis mort. Alors je suis vivifié par le Saint-Esprit. Quand t'as été baptisé, pourquoi pas? C'était quand? Ah ben, il y a très longtemps, vous savez, mon père, j'ai 78 ans. Ah! Très bien. Et votre confirmation? Ah ben, c'était, j'avais 11 ans, donc c'était il y a 67 ans. Bon. Et depuis, plus rien? Plus de Saint-Esprit du tout? Mais notre cœur n'est pas une bibliothèque, un musée, ni un tombeau. Si notre cœur est le temple du Dieu vivant, le temple de l'Esprit Saint, alors d'où viens-tu? Si tu viens du Saint-Esprit, alors normalement tu dois te laisser emporter par le souffle de celui qui habite en toi, maintenant, actuellement. La merveille de notre origine, et lorsque nous parlons de l'origine de l'Église, c'est source d'une grande espérance, vous comprenez? Si on oublie que l'origine, c'est quelque chose d'actuel, et si on se situe uniquement un regard périodique, on se dit qu'il y a du travail à faire encore, hein? Dans ma vie personnelle et dans la vie de l'Église. Sauf que, si on se situe dans cette réalité profonde et magnifique, que mon origine, elle est maintenant, je peux rejoindre mon origine maintenant, Dieu maintenant, par un acte de foi, oui, un acte d'adoration, un acte de louange, la prière, tout simplement, on ne peut aimer qu'au présent. Qu'au présent, alors mon origine, est-ce que tu parles à quelqu'un qui est très très vieux et qui s'appelle Dieu et qui est tellement vieux que, oulala, sa barbe, elle est très très longue? Non. Comme disait Peggy de la Vierge Marie, elle est plus jeune que le péché et Dieu est plus jeune que le péché. C'est le péché qui nous vieillit, qui nous rabougrit, qui nous rend amers et qui nous vieillit mal. Mais Dieu est infiniment jeune. Et nous pouvons le rejoindre, cette origine. Vous voyez, l'Église, nous n'avons aucune inquiétude à avoir sur l'Église. Pourquoi ? Parce que si son origine est la Sainte Trinité, et si actuellement Dieu s'occupe de l'Église, eh bien, il serait bien de penser que nous n'avons aucun souci à nous faire pour l'avenir de l'Église. Et nous ne sommes pas d'abord devant des choses à réformer, des choses à faire, des programmes. Non. Ici, je terminerai parce que c'est l'heure et nous sommes à Medjugorje. J'ai le bonheur de faire cette catéchèse de Medjugorje. Ici, nous prenons un bain de rajeunissement, voyez. Nous retouchons à quel point l'amour est actuel. À quel point l'amour de Dieu pour nous, c'est maintenant. En présence de Marie, elle nous redit sans cesse, mais ton origine, c'est Dieu. Ton avenir aussi. Et comme dit un proverbe juif, si tu veux savoir où tu vas, sache d'où tu viens. D'où viens-tu ? Alors si tu viens de Dieu, principe, cause et source de tout, alors Dieu sera ta fin, F-I-N. Celui qui t'attire et qui t'amène vers lui, qui t'attire vers lui. Quel bonheur d'aller vers celui qui est notre source. C'est ça notre mystère, c'est ça le mystère de l'Église. Elle vient de Dieu, elle est à Dieu, elle est pour Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.